RCF. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Jean-Marie Romet, président de l'association Les Amis du patrimoine de l'armement de Bourges, dans le cadre de nos émissions consacrées à l'histoire militaire du Cher et du Berry, avec Agora Défense. Bonjour Monsieur le Président.
Bonjour Monsieur Dupéra.
Merci d'avoir accepté de consacrer du temps pour nous rencontrer. J'en profite aussi pour vous remercier ainsi que les membres de votre bureau de m'avoir reçu avec beaucoup de gentillesse au siège de votre association Boulevard Lytle. Pouvez-vous me présenter l'association Les Amis du patrimoine de l'armement de Bourges?
Les Amis du patrimoine de l'armement de Bourges, en abrégé APAB, ce qui est quand même beaucoup plus simple à dire que l'ensemble du sigle, est une association donc fondée en 1994 par un groupe d'anciens des établissements d'armement de Bourges. Ces établissements, qu'on appelait autrefois les établissements militaires, peut-être même encore aujourd'hui, c'est-à-dire la fonderie, la pyro et la commission. Puis plus tard, c'était l'ABS, le CP, le ETBS, puis encore plus tard, les FAB et le TBS. Cette association a pour objectif statutaire la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine historique des établissements d'armement de Bourges. Ce patrimoine est constitué de bâtiments typiques de l'architecture industrielle du Second Empire, dont certains sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Ce patrimoine est aussi constitué et surtout d'une importante collection de matériel d'armement, missiles et canons de moyen et gros calibre, et d'une importante collection de plus de 3000 munitions et artifices pyrotechniques. Rassurez-vous, tout inerte.
Oui.
Il y a également une collection d'instruments de mesure utilisés sur le champ de tir de Bourges et une bibliothèque d'ouvrages historiques et techniques. L'association milite pour la création d'un conservatoire des techniques de l'armement à Bourges qui mettrait les collections en valeur et montrerait comment sont conçus les matériels d'armement. L'étude de faisabilité de ce conservatoire vient de se terminer. La PAB a aussi pour but d'entretenir le souvenir de l'armement à Bourges. Pour cela, on a entrepris la rédaction d'ouvrages historiques sur les établissements d'armement. On peut trouver des informations complémentaires sur le site internet de l'association.
Très bien.
L'adresse, c'est apab18.free.fr. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, je vous invite à taper apab18 sur votre moteur de recherche préféré. Et vous verrez, ça marche très bien, c'est la première ligne.
Très bien, Monsieur le Président. Alors justement, remontons dans l'histoire. Existe-t-il une industrie d'armement sous l'ancien régime au début du 19e siècle dans notre région du Berry?
Alors dans le Berry, pendant la Révolution, le Premier Empire, il est possible que quelques fonderies, comme celle du Val d'Aubois, aient pu fabriquer des canons. Oui. Mais on n'en a pas la trace ni la certitude. Il y avait tout ce qu'il faut pour cela, du minerai de fer, du bois pour faire du charbon de bois et de l'eau. Peut-être ces canons étaient-ils destinés à la marine aussi. Et à cette époque, on fabriquait deux types de canons. Les canons de marine étaient réalisés en acier et les canons d'artillerie terrestre étaient en bronze. Selon les artilleurs, le bronze était plus résistant que l'acier. En fait, le problème était sûrement plus probablement dû à la qualité des aciers. À l'époque, ils avaient une fâcheuse tendance à fissurer, un petit peu dangereux. Le terme armement lui-même apparaît au XIIIe siècle avec la fabrication par des artisans d'armes portatives comme les arquebuses, les couleuvrines. Au XVIe siècle, François Ier fait construire un premier arsenal à Paris. C'était essentiellement un dépôt d'armes pour la défense de la capitale. Il fonde 10 autres établissements de ce type en France pendant son règne. Au cours du XVIIe siècle, Louvois réorganise l'armée et Jean-Baptiste Colbert, bien connu, développe l'industrie nationale d'armement. Il crée en particulier des manufactures d'armes, dont celle de Saint-Étienne, des fonderies de canons, des arsenaux de matériel d'artillerie, des poudreries, etc. En 1669, Louis XIV donne à l'État le monopole de la fabrication des armes de guerre. Pendant cette deuxième moitié du XVIIe siècle, les fonderies d'État sont organisées de façon à liquider les anciennes fonderies municipales qui sont réquisitionnées ou qui disparaîtront purement et simplement. Au début du XIXe siècle, alors il se passe un certain temps, on a oublié le XVIIIe siècle. Au début du XIXe siècle, l'organisation des fabrications militaires est très centralisée au ministère de la guerre Et en province, les fabrications sont gérées par des directions d'artillerie locales, dont l'une est implantée à Bourges.
Très bien.
Donc on est maintenant au 19e siècle.
Très bien. Alors, oserais-je affirmer, Monsieur le Président, que c'est Napoléon III qui installe l'armement à Bourges ?
Alors,
question délicate.
Non, pas tellement en fait. on remonte un petit peu le temps. La plupart des établissements installés sous l'Ancien Régime et la Révolution se situaient près des frontières. Ceci pour des raisons évidentes de stratégie et de transport de matériel, donc de logistique. Les guerres de la Révolution et de l'Empire vont démontrer les dangers d'une telle localisation. D'où le choix de Bourges, en plein centre de la France. C'est Napoléon III qui prend la décision en 1860 d'installer une industrie d'armement à Bourges, mais les édiles locaux l'avaient demandé bien avant. Dès 1824, les autorités locales, et en particulier le conseil général du Cher, souhaitent créer un arsenal central à Bourges. En 1830, après la Révolution, le régime de Juillet songe à créer cet arsenal et le conseil général offre même une participation d'1 million de francs en vain. La ville de Bourges obtient quand même en 1837 l'implantation d'un régiment d'artillerie, en plus de l'école d'artillerie provisoire qui avait été installée en 1834. Mais il faudra attendre 1843 pour ouvrir un polygone de tir d'artillerie. En 1846, le ministère de la Guerre lance une réorganisation de certains établissements militaires. Cette réorganisation concernait en particulier les fonderies de Strasbourg et Douai, dangereusement proches des frontières, et celles de Toulouse. En 1860, on y arrive.
On y arrive.
Le comité d'artillerie du ministère de la Guerre propose d'organiser à Bourges, de préférence à La Fère, dans l'Aisne, un grand arsenal de construction. Le comité, donc ce comité d'artillerie, préconise d'y installer une fonderie destinée à remplacer celle de Strasbourg, Douai et Toulouse. Il préconise également d'y installer un dépôt de matériel et d'y transférer l'école de pyrotechnie de Metz, trop proche de la frontière, et enfin d'y créer un polygone de tir d'une dimension suffisante. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce choix est motivé par la position de la ville de Bourges, loin des frontières, bien que sa desserte ferroviaire ne soit pas idéale et que la ville soit un peu à l'écart des grands centres métallurgiques de la Nièvre, de l'Allier et de la Saône-et-Loire. Mais il y a le canal du Berry, ça peut remplacer. Les terrains choisis pour la construction des nouveaux établissements militaires sont ceux qui correspondent à l'actuel technopole, l'Aïtol.
D'accord.
Napoléon III approuve le projet, on y arrive, Napoléon III. L'acte de naissance des établissements militaires est signé le 4 juillet 1860.
Donc on peut vraiment dire que c'est par Napoléon III que débute vraiment l'industrie d'armement à Bourges, en tant que telle.
Et il vient confirmer en 1862, le 10 juillet 1862, il vient confirmer en personne, en venant à Bourges, il vient confirmer donc, et rassurer les élus, dont le maire Pierre Planchat, que cet arsenal va bien être implanté à Bourges.
Bon, nous savons, Monsieur le Président, que la défaite militaire de 1870 met fin à l'Empire, mais est-ce qu'elle met fin à l'aventure industrielle de l'armement à Bourges ?
Eh bien non, je dirais même au contraire. Parce que cette guerre, en fait, a montré la nécessité de s'équiper d'une artillerie moderne. En 1870, donc, les établissements d'armement à Bourges sont la fonderie, bien sûr, qui a perdu son qualificatif impérial, mais qui continue à fonctionner. Rappelons que cette fonderie a remplacé 3 autres établissements, Strasbourg, Douai et Toulouse, et il était donc nécessaire de produire pour remplacer leur disparition. Autre établissement, l'école centrale de pyrotechnie, issue du déménagement de l'école de pyrotechnie de Metz. Son installation est commencée avant le début du conflit et son transfert n'est surtout pas remis en cause. Rappelez-vous le souhait d'éloigner ce type d'établissement des frontières. Il y a aussi l'arsenal en début de construction à côté de la fonderie de canons et un dépôt de matériel. La fonderie de canons, qui était prévue pour couler et usiner des canons en bronze, commence rapidement à mettre en œuvre des canons en acier, comme le Laïtol de 95 mm en 1870 et le Debange de 90 mm en 1875. Elle s'agrandit en surface en s'installant de l'autre côté de la rue de la Salle d'Armes, sur la parcelle appelée encore aujourd'hui Terrain Sud. Plus tard, la fonderie va encore s'agrandir en grignotant les terrains de l'arsenal voisin et du dépôt de matériel. L'ensemble devient l'atelier de construction de Bourges, ABS, en 1912. Au final, la surface de la fonderie est passée de 7 hectares en 1866 à 43 hectares en 1920, site Laïtol et Terrain Sud. Le CP aussi va s'agrandir sur le site de Guéry en empiétant sur le polygone de tir. De 20 hectares occupés en 1914, le CP passe à 300 hectares en 1918. l'activité des établissements militaires. C'est le nom qu'on donnait alors à ces établissements qui étaient dirigés par des militaires, qui étaient d'ailleurs des artilleurs formés spécialement pour diriger les établissements. Cette activité va culminer pendant la période 14-18. Le nombre d'employés des établissements passe de 3200 à 23400.
C'est énorme.
Parallèlement, la ville de Bourges passe de 45 000 habitants à 100 000 habitants.
Alors justement, que fabrique-t-on à Bourges ? Des canons, des munitions, des armes légères ?
Alors essentiellement, des canons. Au tout début de l'activité de la fonderie, en tous les cas, on fabriquait des canons en bronze, comme le canon de 24 Laïte, avec chargement par la bouche. Plus tard, justement, à la fin du 19e siècle, on fabrique des canons en acier, comme le 95 Laïtol et le 90 de Bange, toujours à chargement par la culasse. Puis viendra le fameux canon de 75, adopté en 1897, d'où son nom, 75-97. Ce canon possède une technologie novatrice pour l'époque, le lien élastique. C'est un dispositif qui permet à la bouche à feu de reculer sur son affût. L'arme est freinée, ramenée dans sa position de tir, sans aucune intervention humaine. De ce fait, l'affût reste en position de tir. Plus besoin de repointer. Et la cadence de tir est très fortement augmentée, jusqu'à plus de 20 coups par minute pour les équipes de pièces les plus véloces.
Énorme.
Et il ne devait pas tenir très longtemps non plus à cette cadence-là.
À ce cadence, c'est pas possible, oui.
À l'atelier de construction de Bourges, avant 1914, on confectionnait la partie arme du canon de 75-97 et du 155 Rimaillot. Et on effectuait le montage complet du canon de 75 avec son lien élastique sur son affût. Donc le canon complet sortait de Bourges.
Ah oui.
Mais n'était pas construit totalement à Bourges.
Alors, Monsieur le Président, le temps passe et je pense que nous allons être obligés de consacrer une seconde émission. Alors, je tiens pour l'instant à vous remercier pour ces explications passionnantes. Nous allons retrouver dans une prochaine émission qui va aborder justement les conséquences de la Première Guerre mondiale et l'industrie d'armement après 1919 jusqu'au début du XXIe siècle. Merci à vous, chers auditeurs, de rester fidèles à l'émission consacrée à l'histoire militaire du Cher et du Berry, présentée par Agora Défense.